VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Mozambique, obsèques nationales demain mercredi à Beira, seconde ville du pays, en l'honneur d'Afonso Dhlakama, le chef de la RENAMO, principal parti mozambicain d'opposition, décédé la semaine dernière. Le président Philippe Nyusi y prononcera l'éloge funèbre de son rival de longue date. Leader historique de la RENAMO depuis 39 ans, Afonso Dhlakama, 65 ans, est mort le 3 mai des suites d'une maladie dans son camp retranché des montagnes de Gorongosa dans le centre du pays. Créé un an après l'indépendance du Mozambique en 1975, la RENAMO a affronté l'armée du Frelimo au pouvoir pendant 16 ans, de 1976 à 1992, lors d'une guerre civile meurtrière. La paix revenue, la RENAMO est devenue un parti d'opposition, mais elle a repris les armes en 2013 pour contester la mainmise absolue du Frelimo sur le pays. Afonso Dhlakama avait toutefois engagé récemment des discussions de paix directes avec le président Philippe Nyusi, des pourparlers qui semblaient proches d'aboutir. La lutte contre les djihadistes dans la corne de l'Afrique maintenant. 9 soldats kényans ont été tués hier par l'explosion d'un engin piégé, dissimulé en bordure de route au passage de leur convoi dans le sud de la Somalie. Irénée Herman Nungbo donne des détails sur la réaction de la présidence kényane.
Le président Uhuru Kenyatta se dit horrifié et attristé d'apprendre que son pays a perdu 9 jeunes patriotes dans une lâche attaque terroriste en Somalie. La mission pour laquelle ils ont tout donné se poursuivra jusqu'à ce que les djihadistes Shebab soient vaincus et que le peuple somalien soit de nouveau en sécurité, a déclaré le président kényan sans donner de précision sur les circonstances de l'attaque. Les victimes se trouvaient à bord d'un véhicule qui a été entièrement détruit par l'explosion d'une mine artisanale. L'engin piégé a éventré le véhicule, tuant les soldats sur le coup. Le convoi de la mission faisait route vers une base militaire de Doblé dans la région somalienne du Jubaland. Les Shebab ont revendiqué l'attentat via leur agence de presse affirmant qu'ils avaient fait 15 morts dans les rangs de l'armée kényane. Depuis 2011, le Kenya participe à la mission de l'Union africaine en Somalie pour lutter contre les islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda.
Politique en RDC, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exhorte les autorités de la République démocratique du Congo à lever l'interdiction des manifestations publiques pour faciliter l'organisation d'élections crédibles et inclusives en décembre, notamment les présidentielles. Le point avec Marie Benson.
Selon Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, autoriser les manifestations publiques en RDC favoriserait l'ouverture de l'espace politique. Il souhaite une transition démocratique du pouvoir. Les manifestations politiques sont interdites depuis décembre 2016. La répression de marches des catholiques depuis le 31 décembre a fait une quinzaine de morts. Antonio Guterres souhaite que cette interdiction de manifester soit levée et il encourage le gouvernement à favoriser les candidatures de femmes. Il demande aussi la libération de fonds pour la Commission électorale nationale indépendante. Le secrétaire général de l'ONU prévoit de se rendre à Kinshasa avec le président de la Commission africaine, Moussa Faki Mahamat, pour des discussions avec le président Joseph Kabila sur les élections présidentielles et législatives prévues le 23 décembre.
Au Gabon, le nouveau gouvernement est en place après avoir prêté serment lundi devant le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. 3 anciens opposants en font partie. La Cour constitutionnelle avait décidé le mois dernier de la fin du mandat de l'Assemblée nationale et exigé la démission du précédent gouvernement, Bagassi Koura.
Le nouveau gouvernement est responsable uniquement devant le président Ali Bongo Ondimba. Cette équipe intérimaire va rester en place jusqu'à la tenue des élections législatives qui doivent déboucher sur la formation d'un autre gouvernement. Pour le moment, la date des législatives reste inconnue. 3 opposants font leur entrée, dont 2 poids lourds, Michel Menga Messon et Jean de Dieu Mukanyi Iwangu, qui faisaient partie des soutiens de l'opposant Jean Ping à la dernière présidentielle en 2016. Le nouveau gouvernement possède en tout 7 représentants de l'opposition. Le pouvoir n'a pas organisé les élections législatives à la date butoir du 30 avril. La Cour constitutionnelle a donc décidé de la fin du mandat de l'Assemblée nationale et avait exigé la démission du gouvernement.
Tchad, le président tchadien Idriss Déby Itno a nommé lundi les membres de son gouvernement après la mise en place vendredi dernier de la nouvelle constitution de la 4e République qui instaure un régime présidentiel sans premier ministre. Ce nouveau gouvernement composé de 24 ministres et 4 secrétaires d'État prêtera serment devant le président de la République comme l'exige la nouvelle charte fondamentale promulguée vendredi. L'équipe gouvernementale compte 9 femmes, conformément au vœu d'Idriss Déby Itno de favoriser la représentativité des femmes en politique. Dit titulaire de longue date de portefeuille ministériel, quitte le gouvernement, dont le ministre des Infrastructures, celui des Finances et celui du Pétrole.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Mauritanie, les médecins mauritaniens sont en grève illimitée depuis lundi pour réclamer des augmentations de salaire et une amélioration des conditions de travail dans les hôpitaux. Le point avec Raïssa Girondin.
Les médecins mauritaniens réclament des salaires alignés sur ceux de leurs collègues de la région, a déclaré Mohamed Houldaya, leader syndical. Il précise qu'ils sont entrés dans une grève illimitée après une série de grèves partielles depuis le 16 avril. Le ministre de la Santé, Kane Boubacar, a récemment demandé à une délégation de grévistes de cesser leur mouvement et de revenir à la table des négociations, mais les syndicats ont rejeté sa proposition. Nous avons entamé ces négociations en 2016 et nous ne pouvons pas continuer éternellement à perdre du temps pour rien, a expliqué Mohamed Houldaya. Selon ce responsable syndical, le secteur médical souffre, en plus de la vétusté des équipements et d'une large diffusion de médicaments contrefaits. La Mauritanie compte quelque 800 médecins généralistes et spécialistes, soit un médecin pour environ 4500 habitants.
Actualité américaine, le président Donald Trump pourrait mettre aujourd'hui à exécution sa décision de retirer les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Diplomates et observateurs en sont persuadés. Sauf revirement de dernière minute, Donald Trump devrait donc annoncer à 18h temps universel depuis la Maison-Blanche qu'il rétablit, au moins partiellement, les sanctions américaines contre Téhéran, levées en contrepartie de l'engagement pris par l'Iran en 2015 de ne pas se doter de l'arme nucléaire. Tous les autres signataires de l'accord ont défendu jusqu'au bout ce compromis qu'ils estiment historique, en soulignant que l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, qui conduit des inspections réputées très poussées, a régulièrement certifié le respect par Téhéran des termes du texte censé garantir le caractère non militaire de son programme nucléaire. États-Unis toujours, l'année dernière, une enquête du gouvernement américain a répertorié près de 554 000 SDF, les personnes sans domicile fixe vivant dans les rues. Cette première augmentation des SDF depuis 2010 serait due, selon les experts, à la prolifération des sans-abri à Los Angeles et d'autres villes de la côte ouest du pays. Le reportage d'Angelina Bagdasarian, repris ici par Blanche Sanou.
Angela vivait dans une tente comme celle-ci et elle se souvient très bien de ce qu'elle ressentait comme sans-abri. Et même si elle ne vit plus dans la rue, c'est là qu'elle a passé les nuits dernières en solidarité avec le mouvement Shidaz qui soutient les femmes sans-abri à Los Angeles. Angela croit que chacune d'elles mérite de se sentir en sécurité et aimée. Elle mérite la protection, l'amour en toi. Elles méritent tout parce qu'elles existent. Cette cité de tente est apparue devant la mairie de Los Angeles, une tentative pour montrer aux autorités locales ce qui pourrait arriver si l'administration de la ville continue d'ignorer le problème.
En ce moment, nous sommes dans une crise de sans-abri. Si nous ne trouvons pas une solution à ce problème, c'est ce que vous allez voir dans chaque coin de rue à Los Angeles.
De plus en plus de tentes apparaissent chaque jour. Selon les statistiques officielles, plus de 60 000 personnes dans la région sont maintenant des sans-abri. En décembre 2017, un feu a commencé dans un camp pour sans-abri et a atteint les maisons voisines. Des dizaines de foyers ont été détruits. Il y a quelques jours, le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a noté que la situation des sans-domicile fixe est vraiment critique.
Nous devons construire des refuges d'urgence et nous devons le faire maintenant. Des abris qui servent de tremplin vers le chemin du logement permanent.
La ville a déjà alloué plus de 20 millions de dollars à la construction d'abris temporaires. Mais certains habitants de Los Angeles s'opposent à ce qu'ils appellent une subvention pour les sans-abris.
Pourquoi la ville ne peut-elle pas aider ceux qui travaillent, les étudiants par exemple? J'aimerais aussi avoir un petit appartement propre et privé, mais je ne peux pas me le permettre. Et ils donnent des appartements à des gens qui n'aident pas du tout la société?
Avec ses voisins et des militants locaux, Tatiana tente de convaincre les autorités de la ville de bannir le phénomène vivre et dormir dans la rue. Mais jusqu'à présent, c'est sans effet.
Merci Blanche Sanou. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.